RTL Original Podcast. La route des vins du Luxembourg.
Bonjour Henri.
Bonjour Mathieu.
Henri Rupert, c'est super sympa de nous accueillir ici dans le cadre de la route des vins du Luxembourg avec cette vue qui est toujours magnifique. Tu peux nous parler un petit peu de l'implantation de ton domaine et vraiment cette originalité qu'on prend vraiment en pleine figure comme ça en arrivant.
Hein. Oui, tout à fait. Bah, je dois te dire qu'en fait, on est très très content d'avoir pu construire ici. On est quelques 40 mètres au-dessus du niveau de la Moselle, donc on a une superbe vue sur la vallée. Et c'est vrai que c'est devenu, presque un objet incontournable pour les expats, mais évidemment aussi pour les Luxembourgeois. Effectivement, actuellement, on voit que les expats, surtout les samedis, lorsqu'il fait beau, ils viennent en masse à la Moselle luxembourgeoise, entre autres chez nous, mais bien sûr aussi chez les confrères. Et je pense que s'ils cherchent des lieux comme ça, on peut vraiment vivre la Moselle et faire un peu de œnotourisme.
Alors justement, ce décor, cet environnement, c'est quelque chose qu'on en recherche lorsqu'on, notamment, on déguste des vins. On va parler un petit peu donc de ce millésime 2023 qui a aussi ses particularités, mais c'est l'occasion aussi de revenir un petit peu sur des millésimes un tout petit peu plus anciens. Je pense à ce millésime 2021 qui montrait un aspect à l'époque et qui en démontre encore un autre. C'est un millésime qui a tendance à évoluer, hein, c'est ça?
Oui, totalement. Donc au début, lorsqu'on a fait la mise en bouteille, c'est-à-dire au printemps 22, on s'est dit, ils sont un peu fermés, on va voir comment ils vont évoluer. Et effectivement, il leur fallait un peu de temps pour se démontrer. Mais actuellement, les 21, je trouve très très bon. Ils ont gardé une belle fraîcheur. Je pense actuellement à notre Riesling Markus Berg, qui est un grand canon. Bon, il y a un peu plus d'acidité que d'habitude, de la fraîcheur ou même de la minératé, on peut dire. Mais il a développé totalement les fruits typiques d'un Riesling. Et en mangeant, c'est quelque chose que j'adore aujourd'hui. Par contre, les 22, qui étaient plutôt une année solaire, en fait, c'est la période la plus sec en été que j'ai vue depuis que je fais du vin. Pendant 4 mois, on n'a pratiquement pas eu de flotte, et on pensait qu'ils sont, évidemment, ils sont plus riches, ils sont plus alcooleux, mais en même temps, peut-être qu'ils ont un petit manque, ce qu'a le 21 de trop, donc un peu de fraîcheur là, qui est sur le 21, et un peu de manque peut-être sur le 22, en sachant que les 22 sont quand même très très riches, et je pense qu'il y a des amateurs sur les deux types de vins qui sont quand même assez différents. D'ailleurs, on a vu depuis 2018, l'année canicule, il y a eu comme des vagues, une année chaude, très très chaude, plus froide, plus chaude. C'était très régulier. En fait, une sur l'autre était chaude, l'autre était très froide. Et chez nous, au domaine, en fait, on a une pratique, c'est-à-dire que lorsqu'on a des années plus froides, on produit plus de vins de base crémant. Par contre, dans les années solaires, où il fait plus chaud, on fait plus de vins tranquilles, donc à la rigueur des blancs en barrique ou des noirs en barrique.
Est-ce que ça peut poser problème, justement, ces années où on va produire moins de crémant? On le sait, c'est un produit qui est extrêmement demandé au Luxembourg, qu'il est de plus en plus. C'est une gestion quand même qui se fait correctement, ou parfois c'est un peu périlleux?
Ben, disons qu'effectivement, le crémant luxembourgeois, il a un très très fort succès. On voit une belle croissance des dernières années. Maintenant, la profession a décidé de passer de 9 mois à 12 mois sur latte minimum. Ça peut sembler peu, mais en vérité, si ça rame déjà de façon qu'on a du mal à atteindre les 9 mois, donc ça représente quand même le quart de production d'une année. Donc ça doit être prêt à partir de 2027. Et donc il faut déjà maintenant commencer à produire plus de vin qu'on va laisser plus longtemps sur latte, justement pour prévoir ce pic qu'on aura en 27 avec la croissance qu'on a aussi en même temps. Donc il faut prévoir vraiment de produire de plus en plus de crémant.
Alors Henri Rupert, tu as cette réputation de proposer des vins qui sont vraiment concoctés très soigneusement, des grands vins. Je reviens sur ce que tu me dis précédemment par rapport à l'année 2021 qui apporte une certaine acidité. Est-ce qu'on peut dire que c'est peut-être la bonne année pour mettre en cave plus longtemps ces vins-là? Est-ce que cette année est peut-être plus propice que la 2022?
Je dirais qu'il faut le séparer. Il y a certainement des amateurs pour les vins plus secs, plus minérales, et d'autre côté les vins plus riches, plus goulaillons, plus simples peut-être à boire. D'ailleurs, j'ai eu une dégustation avec des sommeliers de Lorraine, et en fait on a dégusté acheter le même coteau dans le 21, dans le 22, et on a quand même dégusté de 3-4 coteaux en même temps. Comme ça, ils ont tous préféré les 21. Bon, après, le consommateur, il se peut qu'il le voit différemment. Hein. Mais ce qui était intéressant, c'était de retrouver les différents goûts des différents terroirs et justement d'avoir ces deux années l'une contre l'autre. Et après, c'est le consommateur qui décide ce qui lui plaît le plus. Hein.
On vient tout doucement vers cette année 2023. Bon, ça a été une année compliquée hein, pour certains dans la vigne. Faut rappeler un petit peu les conditions climatiques, beaucoup d'humidité. Est-ce que tu peux me faire un état des lieux de ton exploitation sur ces difficultés encourues ?
Oui, effectivement, l'été s'est passé encore, je dirais, plus ou moins normalement. On avait quand même un certain avantage par rapport, comme les dernières années d'ailleurs, dans la végétation. Et avant les vendanges, on a eu des fortes pluies, je parle maintenant de 120 jusqu'à 150 litres. Il y a même des villages qui ont été touchés plus encore par la pluie. Et en fait, le raisin, il était sur le point d'être mûr. Et là, la terre, elle était chaude encore. Et le pied, comme une éponge, il a pris toute la flotte qui est tombée. Et donc, ça provoque que le raisin, il s'éclate. Et là, ça commence à pourrir. On a eu surtout des problèmes sur les cépages avec les peaux les plus fines, c'est-à-dire le pinot gris, le pinot noir. Ils ont beaucoup souffert. Dans le pinot noir, on a eu aussi de nouveau vu la Drosophila suzuki, donc la mouche qui vient du Japon, qui pond malheureusement ses œufs dans le raisin, ce qui a provoqué des pourritures très importantes. Et chez nous, au domaine, on a même dû laisser quelques parcelles entièrement qu'on n'était pas capable de récolter. Et en fait, en 23, le mot-clé, c'était vendange à la main. Donc malheureusement, aujourd'hui, il y en a quelques domaines qui travaillent uniquement pratiquement avec la machine à vendanger, parce qu'il y a des manques évidemment de gens qui viennent encore faire ce travail. D'autres choses, il y a la facilité, donc j'utilise la machine quasiment à l'heure prête où j'en ai besoin. Mais lorsqu'on a tellement de pourriture, la machine, ce n'est pas la meilleure solution. Donc lorsque les conditions sont bonnes, c'est-à-dire on a un raisin qui est mûr, qui est dur, surtout sain, la machine peut nous aider beaucoup, mais en 23, ce n'était pas le cas. Donc en 23, il fallait vraiment rentrer dans les vignes avec les gens et faire un tri à la main dans la vigne. Sinon, on a vraiment ramassé tout ce qui n'était pas beau, surtout dans les cépages qui étaient le plus touchés. Et ça, c'est quand même dommage.
Bon. Henri, on va maintenant passer à table, comme on dit, c'est-à-dire on va s'intéresser plus précisément aux différents breuvages. Je sais que chaque année est une année unique. Parle-moi de tes vins préférés de ce millésime 2023. On va en passer quelques-uns en revue. Je t'écoute.
Bah, on n'a pas encore tout embouteillé. Le premier qu'on a embouteillé, parce qu'on était pratiquement en rupture, c'est l'Auxerrois. Et aujourd'hui, il se présente avec une très très belle fraîcheur. Il n'est pas trop chargé en alcool. Il est très très pur, très très fin, très typique aussi pour le cépage. Après, on a embouteillé le Pinot Blanc, qui se présente aussi aujourd'hui très très bien, assez frais, goulaillant. Après les autres cépages, il y a encore une mise qui est prévue la semaine prochaine. Et donc on a quand même su faire sur les chardonnays, les pinots blancs, en barrique, on a fait moins que d'habitude parce que c'était pas évident. D'ailleurs le chardonnay s'est relativement bien tenu sur les pieds, donc on a quand même su faire un peu de chardonnay aussi pour l'élevage barrique. Pinot noir n'a pas pu faire, impossible, le niveau sanitaire il n'était pas là pour le faire, et aussi la maturité elle n'était pas assez élevée pour faire des rouges, donc on a fait le choix de faire plus de rosés. D'ailleurs les rosés aussi, maintenant heureusement on a un peu de beau temps là maintenant avec le soleil, l'été est déjà presque fini, on n'a pas eu beaucoup de chance de faire la grillade à l'extérieur, donc c'est les rosés avec la grillade évidemment, c'est j'adore ça en été. Et les Riesling ils sont encore partiellement sur lit, donc on n'est pas trop stressé par rapport à l'embouteillage tant qu'on a encore les millésimes à la rigueur précédents qui sont encore en vente. Il n'y a pas le feu, je préfère les faire la maturation, l'élevage un peu sur lit jusqu'au mois de juillet, août même, ce qui est le cas surtout pour tout ce qui est en barrique. On les laisse quasiment une année sur lit, dans les fûts, ce qui les rend beaucoup plus ronds, plus amples, et le vin bénéfique vraiment du passage sur l'île.
Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu la notion de fût à nos auditeurs de la route des vins du Luxembourg ? Alors, on entend souvent parler de fûts en bois, hein, bien sûr. Toi, par exemple, tu travailles avec quel type de fût ? Quelle est la contenance en général de ces fûts ? Quel type de bois on va retrouver ? Est-ce qu'on peut avoir quelques indications par rapport à ça ?
Bah déjà, ce qui est intéressant avec le fût, avec le bois, c'est qu'en fait, on a une micro-oxygénation en permanence. Donc, c'est tout à fait un autre élevage par rapport à un fût en inox, un fût en béton, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on a plus d'oxygène qui rentre dans le vin, et de cette façon, le vin devient un peu, disons, même, oui, oxydatif, d'accord. Et après, par rapport au bois, respectivement, la façon de traiter le bois, je parle maintenant des toastings. On peut aussi rajouter quelque chose que le vin n'a pas de soif, par exemple la vanille. Un vin de soif, même il n'a jamais de la vanille, ça vient du toasting du bois. Après, c'est une question jusqu'où je vais avec le toasting. Donc aujourd'hui, on recherche de nouveau plus le fruit, donc le vrai goût du vin, au lieu de le surboiser, donc vraiment des toastings très très faibles. Mais en général, je trouve que c'est très intéressant de rajouter quelque chose sur un Auxerrois, un Pinot Blanc ou un Chardonnay, ce qu'il n'a pas de soi-même. Par contre, à ce moment-là, il faut vraiment avoir du vin, c'est-à-dire qu'on cherche une autre maturité que sur les vins normaux qu'on met en inox. Donc on cherche un alcool potentiel qui vient du pied, qui titre 13,5, voire 14 parfois. 14 pas forcément, on cherche pas forcément les 14, mais je vais quand même dépasser les 13 naturellement, de façon que le vin il a assez de puissance pour mettre quelque chose à côté du bois. Donc, et après élevage, normalement c'est presque, donc les blancs c'est pas tout à fait 12 mois mais 11 mois, et après on les laisse encore vieillir un peu en bouteille, de façon que le vin se marie avec le goût du bois. Et là, après, on a quelque chose qui est très très intéressant, surtout sur une cuisine de la Méditerranée où je travaille plus avec l'huile d'olive, donc des plats qui sont plus costauds, où le plat en lui-même demande un vin qui a plus de muscles.
C'est un défi pour toi justement de pouvoir proposer des vins qui vont être de caractère, des vins qui vont être charnus. Alors évidemment, c'est beaucoup plus simple lorsqu'on exploite dans le sud de la France, mais ici à Luxembourg, c'est un défi chaque année de pouvoir proposer des vins racés, des vins du caractère. C'est le premier objectif.
Le premier objectif en fait, c'est de produire des vins qui sont sains, qui sont propres. Ça c'est pour moi.
On ne triche pas.
On ne triche pas. C'est le niveau sanitaire par rapport au moment de la vendange, il m'est extrêmement important. C'est-à-dire lorsqu'on a du pourri, il faut aller avec les gens et cueillir avec la main. Ça c'est le primordial pour moi. Et après on cherche le volume. Le volume, comment on arrive à avoir du volume, de la concentration dans les vins? Bah, tout simplement en limitant les rendements. Donc déjà dans notre entrée de gamme, on est sur un rendement moyen aux alentours de 60 hectos. Et si on parle chez nous de 20 terroirs, on est aux alentours de 30, 35, maximum 40 hectos. Et de cette façon, évidemment, on arrive à avoir une belle qualité et surtout aussi développer les goûts typiques de nos cépages, les unicépages. Comme on ne fait pas des coupages, les unicépages, moi, un vin, pour moi, il est presque fautif lorsque je n'arrive pas à l'aveugle définir quel cépage que c'est. On peut avoir des vins très très bons, très très fins, très très bien faits techniquement, mais du moment que je suis incapable de définir quel cépage que c'est, ça aujourd'hui, pour moi, c'est un petit défaut.
D'accord. Ouais, quelque part, il faut que tout reste fidèle à l'intérieur. C'est ce que tu essaies un petit peu de m'expliquer, quoi. Rester fidèle au cépage, au goût qui peut générer. D'ailleurs, à ce sujet, tu me parlais de fûts là précédemment. Ces fûts-là, lorsque donc on a eu un élevage pendant 11 mois, ces fûts reservent plusieurs années. Est-ce qu'on y stocke le même type de vin à l'intérieur? Comment est-ce que vous fonctionnez?
Bah, dans les blancs, effectivement, on peut changer de cépage en cépage. Ça, c'est pas le problème. Par contre, si on a un fût qu'on utilise pour les rouges, on n'a plus intérêt de l'utiliser à la rigueur pour les blancs. Oui, on les utilise plusieurs fois, c'est-à-dire que la plus grande partie des fûts, effectivement, ils donnent la meilleure qualité lorsqu'il y a le deuxième vin dedans. C'est-à-dire que le premier vin, il enlève un peu peut-être des tanins qui sont un peu en excès. Et surtout, la deuxième fois qu'on met du vin, normalement le fût, il est fantastique. Mais on ne peut pas avoir que des fûts qui ont 12 ans.
Donc, forcément.
Donc on est obligé d'en acheter toutes les ans. Et là, on fait un peu attention à la maturité de l'année. Donc si j'ai une année un peu plus faible, je travaille plus avec des fûts qui ont vu déjà quelques mois, de façon que je ne les marque pas trop avec le bois. Par contre, lorsqu'on a une forte année où on dépasse les 13,5, les 14 en alcool potentiel, là on achète des plus grandes quantités parce que là le vin il supporte beaucoup mieux le bois de nouveau.
D'accord. Alors, certains vignerons au Luxembourg ont décidé de planter des nouveaux types de cépages pour varier un petit peu leur production. Toi, à ton niveau, comment est-ce que tu développes justement ton domaine? Est-ce que tu as fait le choix, par exemple, d'acheter des terres supplémentaires, de développer des nouveaux cépages, de concocter des nouvelles cuvées? Comment est-ce que tu entends développer ton exploitation comme ça chaque année?
Bah, des nouveaux cépages, oui, j'en ai planté. J'en ai planté 30 arts de Sauvignon Blanc.
Okay.
C'est un cépage qui me plaît bien. J'aime bien boire les Sancerres, tout ça. Et pour moi, c'est un cépage, je dirais, assez moderne. Parce que, par exemple, ça marche de merveille avec les sushis, avec les fruits de mer. J'adore ça. Peut-être qu'on va encore planter un peu davantage, mais je ne pense pas que ça va prendre plus d'ampleur que d'un demi-hectare, je ne pense pas qu'on va dépasser un demi-hectare, mais quand même ça me semble assez intéressant et surtout j'aime moi-même aussi ce cépage et j'ai envie de voir ce qu'on est capable de sortir de ce cépage au Luxembourg. Mais en général, il faut quand même dire qu'on a des beaux cépages, je pense maintenant à l'Auxerrois qui est un peu parfois méconnu, idem pour le Pinot Blanc, parce que parfois, les gens ou les confrères, le rendement, ce que je dois leur reprocher, peut-être qu'il est parfois un peu trop élevé, de façon que le goût typique de ce cépage ne sort pas comme il faudrait. Donc, il ne montre pas toutes ses qualités. Donc, mon avis, c'est de vraiment aussi de penser à ce qu'on a déjà en encépagement et de retravailler encore ces cépages en leur donnant encore une qualité supérieure. Après, le Pinot Noir. Évidemment aussi, avec le changement de climat, il faut penser au rouge. Pas forcément uniquement au Pinot Noir, peut-être au futur même à la Syrah ou Cabernet Franc. Actuellement, déjà, on fait quelques Pinot Noirs qui ont des très très belles qualités. Mm-hmm. Je pense que même on peut les comparer avec l'un ou l'autre Bourgogne, sans problème. Et je pense qu'il y a encore du potentiel pour ce type de cépage. Il faut juste savoir que c'est encore plus compliqué que sur les blancs et qu'on n'arrive pas forcément à en faire d'année en année. Mon 21 comme mon 23, on a décidé de ne pas en faire parce que ça manquait quand même un peu de maturité, donc je ne voulais pas faire sortir des polyphénols, des anthocyanes qui sont verts, donc on n'en a pas fait. Par contre, c'est un cépage qui est extrêmement intéressant pour la production des créments, évidemment, pour les rosés, mais évidemment aussi sur les blancs. C'est un cépage qui nous donne beaucoup de force dans les créments. Et donc aussi les autres cépages rouges au futur, mais ça il faudra voir avec le changement de climat comment ça va s'établir. Il y a certainement aujourd'hui, si on plante ce type de cépage dans les meilleurs coteaux, je suis sûr qu'on peut vraiment faire des belles choses. Peut-être pas chaque année, mais je vois quand même un futur pour cela. Mais en même temps, il faut dire que les coteaux A, comme je les vois aujourd'hui, ils risquent de devenir au futur des coteaux B, parce que tout simplement, il y a l'un ou l'autre cépage blanc dans une orientation totalement sud, avec une belle pente. En fait, les vins, ils vont être un peu dégénérés lorsqu'il fait trop chaud. Hein. Donc, pourquoi ne pas mettre des rouges dans ce type de coteaux? Mais ça, c'est une évolution, c'est quelque chose qu'on doit suivre. Je pense qu'on est capable de le faire. On ne va pas tout arracher dans les meilleurs coteaux, on ne va pas enlever les Riesling dans les meilleurs coteaux du jour au lendemain, mais peut-être dans 10, 15, 20 ans, je n'en sais rien, peut-être qu'on va avoir beaucoup plus de rouge dans ce type de coteaux qu'aujourd'hui.
En tout cas, ouais, ça nécessite des adaptations. Henri Rupert, on va refermer ce podcast avec un dernier sujet qui est le sujet du crément. On a eu il y a quelques années une mode du crément, on va dire brut, voire même extra brut. Quelle est pour toi ta vision du crément tel que Henri voit le crément?
Bah, actuellement, lorsque nous on déguste les créments avant la mise au marché, c'est-à-dire qu'on les déguste entre 3-4 cavistes, moi et notre conseil œnologue, à la rigueur maintenant mon neveu qui rentre dans le domaine. Et je dois dire qu'en fait, les dernières années, on est devenu de plus en plus sec. J'ai remarqué qu'à l'époque, lorsque j'ai commencé avec du crément, on était classiquement dans le brut. Aujourd'hui, on est très souvent dans l'extra brut et même on a produit des créments avec des zéros dosages. Bon, faut savoir que ça aussi, c'est assez compliqué. Je ne pense pas que c'est un atout de dire qu'on est zéro dosage. Au domaine, on ne fait pas le crément pour nous, mais à la fin de la journée, on le fait pour le client. Il faut que ça plaise au client. Et donc, faire des extra bruts, c'est au zéro dosage, c'est assez compliqué parce qu'il faut quand même plus de richesse, il faut qu'il soit vineux. Sinon, je ne veux pas dire que c'est âpre, mais c'est comme... Il y a la longueur qui manque à la rigueur. Lorsqu'il est dégorgé, ça va se retrouver, mais ça peut prendre quand même pas mal de temps. Mais franchement, les derniers accréments qu'on a dégustés, qu'on a mis les dernières années même, on était très souvent dans le extra brut, c'est-à-dire quelques grammes nous suffisent pour trouver une harmonie. On ne cherche pas du tout à les surdoser. Après, c'est le choix du client. Est-ce qu'il apprécie des produits qui sont plus secs ou est-ce qu'il cherche quelque chose qui se rapproche d'un demi-sec? Ça, c'est toujours l'appréciation du client. Mais je pense que nous, actuellement, on a trouvé une belle voie pour vraiment produire des créments qui sont assez secs.
Merci beaucoup, Henri Rupert. Je le rappelle, hein, ce domaine donc situé à Schengen avec cette vue qui est tout simplement époustouflante. Et donc, on peut découvrir tes vins ici le week-end, hein, c'est bien ça, également?
Oui, le week-end, on est ouvert le samedi et le dimanche à partir de 11h. Sinon, on est dans la semaine, les mercredis, jeudi, vendredi à partir de 14h. Il y a toujours des petites planches, quelque chose à grignoter et donc apprécier le paysage, boire quelques beaux vins et avoir quelques belles heures aussi avec nous, avec des confrères, des amis. C'est quand même un lieu de rencontre et on est très content de pouvoir, d'avoir ce jouet pour faire découvrir nos vins aux clients.
Eh ben merci beaucoup Henri de nous avoir accueillis pour ce podcast La Route des Vins du Luxembourg sur RTL. À très bientôt Henri.
Je t'en prie, merci. Merci Salut. Beaucoup d'être venu. Merci.
C'est normal.
La Route des Vins du Luxembourg.